Les discussions doivent se poursuivre encore une journée à Bougival. On fait le point sur les dernières infos dans un instant. Le Conseil d'État confirme la suspension temporaire du commissaire Henri Drouet. Il a rendu son arrêté cette nuit. Les associations aussi sont les grandes victimes des violences insurrectionnelles de mai 2024. Selon des enquêtes de l'ISEE et de l'AFD, 69% d'entre elles ont dû interrompre temporairement leur activité. La France et le Royaume-Uni signent un accord pour lutter contre l'immigration clandestine. Dernier acte du voyage de 3 jours que vient d'effectuer Emmanuel Macron. L'Iran confirme l'arrestation d'un jeune franco-allemand. On était sans nouvelles de lui depuis le 16 juin dernier. Et puis le sport avec le Tour de France et le duel des leaders se poursuit au terme de la 6e étape remportée par Ben Hilly. Mathieu Van Der Poel reprend le maillot jaune à Tadej Pogacar pour une petite seconde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec le magazine Transparence comme tous les vendredis. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera aujourd'hui le directeur de l'IEOM.
Oui, c'est Fabrice Dufresne qui est ce midi l'invité du magazine Transparence. Il sera interrogé sur le rapport annuel économique 2024 sur la Nouvelle-Calédonie que vient de publier l'Institut d'émissions d'outre-mer. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler sur RRB. Un document qui revient sur le choc d'une ampleur sans précédent que connaît l'économie calédonienne. On se retrouve donc d'ici une petite demi-heure en compagnie de Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM. Ce sera juste après votre journal.
Et bien sûr, à 16h45, ce sera le club politique.
Et au sommaire de ce club, nous parlerons bien sûr du sommet de Bougival, même si ce sera compliqué, étant donné la confidentialité qui entoure les négociations. Nous évoquerons aussi en marge de ce sommet les différentes déclarations et prises de position, notamment celle des coutumiers, celle de Christian Théin ou celle de l'USTKE. Et puis nous reviendrons là aussi sur le rapport de l'IOM, un club politique qui débute cet après-midi à 16h45.
Les négociations sur l'avenir institutionnel, donc, elles se poursuivent pendant encore une journée à Bougival. Les discussions se déroulent autour d'un document préparé par l'État pour faire le point sur les avancées, mais il reste encore plusieurs sujets de blocage. C'est ce qui justifie la prolongation de cette séquence. Les délégations politiques calédoniennes quitteront l'hôtel Hilton de Bougival samedi, en fin de journée, mais il est envisagé de poursuivre, si nécessaire, les discussions au ministère des Outre-mer dimanche et lundi. Le président de la République a confirmé sa volonté de clôturer lui-même les travaux, même si l'on ne sait toujours pas si ces discussions déboucheront sur un projet d'accord. On sait par ailleurs que Manuel Valls doit se rendre en Polynésie française à partir du 15 juillet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. La durée des négociations sur l'avenir institutionnel qui se poursuivent depuis plus d'une semaine à Bougival est-elle selon vous un bon signe? Si vous pensez que c'est un bon signe, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier. À l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'avec 34 médailles dont 7 en or pour une délégation restreinte de 31 athlètes, les Cagous ont réussi leur mini-jeu à Palau. Le Conseil d'État confirme la suspension du commissaire Henri Drouet. Le Conseil d'État avait été saisi par l'ancien directeur de la police judiciaire qui demandait l'annulation de l'arrêté de novembre du ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, qui suspendait Henri Drouet provisoirement après un signalement et l'ouverture d'une enquête de l'IGPN. Dans son arrêté, le Conseil d'État estime que les faits reprochés sont d'une vraisemblance et d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de suspension temporaire. Le Conseil d'État s'appuie sur le rapport de l'IGPN qui met en avant des témoignages selon lesquels Henri Drouet avait fait preuve de violence verbale et physique à l'encontre d'agents dans l'exercice de ses fonctions. Il aurait également contesté l'autorité de sa hiérarchie et interdit à ses collaborateurs d'échanger des informations judiciaires avec les agents venus en renfort de métropole durant la période de violence débutée au mois de mai 2024. Justice et la Chambre d'instruction siégeaient ce matin sur le dossier du trafic international de cocaïne. Elle devait statuer sur la demande de remise en liberté de l'un des membres d'équipage du bateau arraisonné le 25 juin dernier, à près de 400 000 nautiques de Nouméa, lors d'une saisie record de 2,5 tonnes, Nicolas Legrand.
Oui, les 7 membres d'équipage ont été mis en examen et écroués. 2 Portugais, le capitaine et le mécanicien, et 5 Équatoriens. L'un des membres sud-américains a demandé ce matin à être remis en liberté en attendant son éventuel procès. Sa demande a finalement été refusé. Le parquet avait requis son maintien au camp Est pour éviter toute fuite du suspect en indiquant que c'était une affaire hors norme avec des ramifications transfrontalières. La procureure a indiqué que l'instruction devait chercher les producteurs en Amérique du Sud, mais aussi les commanditaires. Elle fait état de points de contact également sur le territoire, car les trafiquants avaient prévu de s'arrêter à Nouméa pour effectuer des réparations avant de se rendre en Australie. Par ailleurs, elle estime que plusieurs de ses membres d'équipage font partie de cartels bien connus en Amérique du Sud. Le trafiquant combattant international présumé est donc reparti au camp Est sous une escorte importante du raid. Ce matin, il a lu un mot en espagnol qui a été traduit à la cour. En pleurs, il a déclaré être terrorisé par cette procédure, notamment en raison de la barrière de la langue.
À Yaoué, l'insécurité au cœur des discussions hier soir lors d'une réunion publique qui s'est tenue à l'ancienne école Adolphe Boutan à l'initiative de l'association Citoyens Mondorien. Quelques semaines après l'incendie d'une maison dans le quartier, il s'agissait de faire le point sur l'insécurité locale, de recueillir des témoignages de victimes et de proposer des pistes d'action concrètes. Un temps d'échange en présence d'agents de la commune. Florent Perrin est le président de l'association et revient sur les faits récents et le dispositif d'aide aux victimes mis en place par son association.
Il y a des cambriolages à tire-larigot, comme on dit. D'ailleurs, la directrice de cabinet du haut-commissaire a indiqué une augmentation de 50% des cambriolages. C'est énorme, c'est pas normal. Dans notre société calédonienne, c'est pas normal. Donc il faut qu'on réagisse, et c'est déjà de rassembler les gens, de voir avec eux ce qu'on peut faire. Et puis, avec notre association, on a mis en place une aide aux victimes, puisque les victimes se retrouvent toujours toutes seules. Elles vont porter plainte et puis il se passe rien. Donc nous, on peut aider à louer une voiture quand on se fait carjacker, à une petite somme d'argent par solidarité, ou encore mettre quelques bénévoles pour aller repeindre une maison qui s'est fait toute taguer, quoi.
Des courriers seront envoyés aux autorités pour faire remonter les demandes des citoyens. La question des squats est également l'une des prochaines étapes à traiter selon l'association. Il est 11h37, on va marquer une pause dans ce journal. Les associations, justement, grandes victimes, elles aussi, des exactions de 2024. L'ISE et l'AFD ont fait deux études, on y revient dans un instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Retrouvez l'incontournable retraite au Flambeau de Nouméa ce dimanche 13 juillet.
Changement de lieu cette année pour le départ du défilé. On se donne rendez-vous au Mémorial américain à Port-Moselle dès 18h30 avec la distribution des lampions, puis le défilé qui ira jusqu'à la place des Cocotiers.
Des manèges, jeux gonflables et stands de restauration vous attendront à partir de 18h du côté de la place des Cocotiers et soyez prêts pour le fameux bal populaire qui commencera à 19h15, place de la Marne.
Programme complet de cette retraite au Flambeau sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa ma ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Chez Decathlon, le bleu est plus qu'une couleur. C'est la promesse du meilleur rapport qualité-prix. Du textile aux équipements, découvrez notre large sélection de produits bleus pour tous les sports. Decathlon, le meilleur du sport au meilleur prix.
Prêt pour un lavage parfait? Pour un linge impeccable, même à l'eau froide, Gamma prend soin de vos blancs et couleurs, tout en leur offrant une fraîcheur intense qui dure longtemps. Gamma, le choix malin pour votre lessive. Découvrez nos nouveaux parfums de lessive Gamma dans votre magasin le plus proche. Gamma, le choix malin.
Du 30 juin au 27 juillet, Ubiquitex lance son jeu ultra connecté. De nombreux lots high-tech à gagner. Des AirPods, une Apple Watch et un iPhone 16 Pro Max. Pour t'inscrire au tirage au sort, scanne le QR code en magasin ou rends-toi sur jouer.nc. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Plus d'infos sur le Facebook, ça qui est bon, NC. Règlement déposé chez Maître Citrita.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Les associations grandes victimes aussi des exactions de mai 2024. L'ISE et l'AFD ont mené deux études sur l'impact de cette crise l'an dernier sur le tissu associatif. Et le constat est assez alarmant, Léana Colombo.
Une première étude a été menée par l'ISE entre novembre et décembre 2024, soit environ 6 mois après les exactions. Le tissu associatif, déjà fragilisé depuis de nombreuses années, s'est révélé être un des plus touchés par la crise. Près de 4 associations sur 5 ont dû suspendre et ou réduire leurs activités. Véronique Ujicas, chef du service conjoncture et diffusion à l'ISE, révèle que les principales conséquences de ces événements sont d'ordre financier, mais aussi organisationnel.
On voit qu'il y a un impact différent selon les associations, impact qui est beaucoup sur les ressources humaines des associations. Elles ont perdu 9% de leurs effectifs salariés, elles ont perdu énormément de bénévoles, énormément d'adhérents, de bénéficiaires. Et puis il y a le pendant financier avec des recettes qui ont aussi considérablement diminué. Donc globalement, sur l'ensemble des associations employeuses, c'est de l'ordre de 6 milliards de recettes auxquelles elles s'attendaient en début d'année, qu'elles n'ont donc pas eu en fin d'année. Donc en fait, des recettes à tous les niveaux en baisse qui fragilisent encore plus les associations.
Toutefois, les conséquences diffèrent selon le domaine d'action des associations. Celles spécialisées dans le sport, le loisir, la culture ou la santé ont été grandement impactées. Le recours à leurs services a baissé pour la plupart des associations à près de 70%. À l'inverse, la demande de services a augmenté pour 20% des associations, notamment celles intervenant dans le domaine de l'action sociale. Une seconde étude a été commandée par l'AFD en fin d'année dernière. Cette dernière souligne le rôle socio-économique des associations sur le territoire. Leur disparition serait donc catastrophique, mais pour autant, plusieurs recommandations ont été données pour redonner souffle et perspective au secteur, explique Marie-Madeleine Lecâtre, gérante du bureau d'études Alter Conseil, qui a mené l'étude de l'impact de la crise de mai 2024 sur les associations pour l'AFD.
Il y a des enjeux de financement à très court terme pour leur survie, parce que le risque, c'est des disparitions d'associations, et des disparitions d'associations sont des disparitions de services rendus à la population. Donc les leviers, c'est avoir davantage de lisibilité sur le volet financier, y compris de la part des collectivités. Un des leviers clés, c'est aussi la représentation des associations. Et le secteur souffre aussi d'une absence de données, d'études collectées, centralisées, et on souffre d'une connaissance approfondie de la réalité du secteur associatif. Et s'il y a trois sujets sur lesquels il faudrait effectivement insister, c'est les urgences, là en termes de soutien au tissu associatif, c'est accompagner la structuration du secteur associatif pour avoir une visibilité fine du secteur associatif, et c'est considérer les associations comme des acteurs à la fois de la réflexion sur l'avenir institutionnel et des acteurs de terrain pour la reconstruction du pays.
Bien que les associations représentent environ 5% de l'emploi salarié en Nouvelle-Calédonie, elles dénoncent une invisibilisation de la part des institutions. Au travers du collectif des associations de Nouvelle-Calédonie, elles appellent à une reconnaissance de leur utilité et de leur impact. Thibaut Bizien est l'un des coprésidents du collectif.
Ça fait un an qu'on demande un dispositif d'aide spécifique aux associations, on ne l'a pas obtenu. Ça fait 10 ans qu'on demande des réformes très spécifiques parce qu'on connaît très bien les solutions liées à nos problèmes et qu'on les propose. Et on voit bien qu'entre les deux études, celle de 2014 et celle de 2024, on a les mêmes constats, les mêmes problématiques et pas de solutions qui ont été apportées. Donc il y a un manque de portage politique sur les réformes essentielles pour le monde associatif. Et donc on recherche aujourd'hui, hein, clairement, c'est le message, aidez-nous à vous aider, puisque nous sommes là pour vous accompagner, pour compléter, voire assurer une partie du service public. On a des solutions, on a besoin de personnes pour nous aider à mettre en place des délégations de services publics, des conventions pluriannuelles, un statut pour les bénévoles, la loi sur l'économie sociale et solidaire qui devrait arriver mais qu'on n'a que trop attendu. Et puis bien sûr, pourquoi pas une chambre consulaire sur l'économie sociale et solidaire. Et donc dans l'idée, on a vraiment besoin de cette reconnaissance et de cet accompagnement.
Selon ces études, les associations interrogées expriment des doutes quant à leur capacité à surmonter les difficultés auxquelles elles font face. 52% font part de leur incertitude et 10% sont même pessimistes quant à leur avenir.
Toyota organise son grand salon annuel. 3 jours d'animation, de bonnes affaires et de rencontres avec ses partenaires à la Maison des Artisans qui ont débuté ce matin. Les visiteurs peuvent découvrir les nouveaux modèles, profiter d'offres spéciales et tenter de gagner des lots en tournant la roue Toyota. Citadine, SUV ou 4x4 sont proposés avec la présence de banques, d'assureurs, de spécialistes de la défiscalisation. Et le point fort cette année, les nombreuses occasions disponibles sur toute la gamme. Écoutez Yorick Dang, c'est le directeur général de Toyota Nouvelle-Calédonie.
On part vraiment de toute la gamme. On a aussi bien de la Yaris d'occasion que du Land Cruiser, que du RAV4, CHR. L'avantage donc sur le salon, c'est qu'on a tous les financeurs sur place, les accessoiristes, et on a un fort soutien de l'ensemble des financeurs qui nous proposent des taux qui sont vraiment défiant taux de concurrence pendant ce salon. Donc c'est vraiment l'opportunité d'avoir tout sur place au lieu de courir à droite à gauche, et surtout avec des taux vraiment compétitif qu'on n'avait pas vu depuis un moment d'ailleurs. Juste vraiment surpris déjà de l'influence qu'il y a déjà. On est là sur 3 jours et ça démarre déjà très très fort. Il faut venir le plus tôt possible pour profiter de ces prix assez exceptionnels.
Et ce salon se poursuit aujourd'hui jusqu'à 18h. Demain, il est ouvert de 8h30 à 18h et dimanche de 8h30 à 17h. À Koné, les étudiants de la province Nord ont préparé leur CV aujourd'hui. Un stage dating est organisé en effet au campus de Bako. Plusieurs directions de la province Nord ont diffusé des offres de stage pour lesquelles les étudiants peuvent postuler. Une 60aine d'entre eux a pu profiter de cette rencontre organisée en 2 temps, comme l'explique Laïda Roy, responsable pédagogique sur le campus de Bako.
On a 2 temps ce matin, donc un premier temps qui était réservé aux étudiants de 3e année. Qui ont un stage obligatoire à faire et en fait qui passaient un entretien ce matin avec des agents de la province Nord. Le second temps de la journée, il est destiné aux étudiants de première année qui, eux, sont une petite 50aine ce matin et qui, eux, passaient des simulations d'entretien avec des volontaires des différents services de la province Nord. C'est pour s'entraîner, pour apprendre par l'expérience, puisque justement nos étudiants n'ont pas forcément eu beaucoup l'opportunité de passer des entretiens. Or, c'est une compétence qu'il faut absolument développer, et notamment la gestion du stress, la posture professionnelle, savoir bien se présenter, parler de soi, de ses atouts et aussi de ses défauts.
Ce stage dating prendra fin dans un quart d'heure à midi. En parallèle, des ateliers étaient proposés par le Bureau d'information jeunesse et services des bourses de la province Nord. Les étudiants ou futurs étudiants ont pu y trouver des informations sur les aides et l'accompagnement dont ils peuvent bénéficier pendant leur cursus. Un mot de l'actualité aérienne et le trafic une nouvelle fois perturbé entre Nouméa et Singapour. Les vols SB740 et SB741 prévus ce vendredi sont retardés en raison d'une contrainte d'équipage de la compagnie iFly auprès de laquelle Air Calin a affrété un Airbus A330-300 pendant la durée de maintenance de ses appareils. Le vol SB740 qui devait partir de Nouméa à destination de Singapour à 1h45 la nuit dernière est finalement parti il y a quelques minutes. Le vol SB741 au départ de Singapour, initialement prévu à 11h, partira lui à 19h30 ce soir. Il atterrira demain matin à 7h25 à Tontouta. Air Calin assure les passagers par voie de communiqué. En dehors de ces retards, l'ensemble des programmes de la compagnie ce vendredi sera opéré normalement. L'actualité dans la région avec cette mésaventure dont se souviendra un jeune surfeur australien contraint de passer la nuit sur un îlot isolé. Les faits que nous raconte Jean-Pierre Zajac se sont passés dans le nord du New South Wales.
Darcy Diffols, 19 ans, s'était mis à l'eau mercredi en fin d'après-midi dans l'espoir de surfer quelques vagues avec son Malibu Longboard au large de la plage où il habite avec ses parents. Le vent était presque nul, mais de forts courants marins l'ont toutefois entraîné vers le large. Après avoir dérivé pendant des heures, il a finalement atteint Solitary Island, un escarpement rocheux composé de quelques petits îlots inhabités situés à une douzaine de kilomètres des côtes où il a passé la nuit. Inquiet de ne pas le voir rentrer au logis, ses parents avaient alerté les autorités et plusieurs bateaux des services de sauvetage en mer se sont lancés à la recherche du malheureux qui a finalement été retrouvé hier matin, sain et sauf mais transi, après avoir passé la nuit à la Belle Étoile. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h48, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve juste après pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Du 4 au 27 juillet, c'est l'anniversaire chez Gémeaux Chaussures et Vêtements. Rendez-vous en magasin, scannez un QR code et tentez de remporter instantanément un bon d'achat de 500 à 10 000 francs. Vous n'avez pas gagné ? Vous participez au tirage au sort final, vous permettant de repartir avec 3 voyages pour 2 en Australie, soit un total de plus de 1,5 million de francs de cadeaux. L'anniversaire Gémeaux, du 4 au 27 juillet, c'est aussi des prix de folie avec des remises jusqu'à 50% sur une large sélection d'articles.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Jeu sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Burigna.
Le Salon Toyota 2025. Du 11 au 13 juillet à la Maison des Artisans. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs et profitez également d'un déstockage sur les véhicules d'occasion. Venez découvrir la gamme Toyota et les dernières nouveautés. Alors rendez-vous du 11 au 13 juillet à la Maison des Artisans. Et le salon Toyota, c'est aussi chez Nord Motors Kone. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
À l'occasion de la fête nationale, la ville de Païta vous convie tous. Au programme, le 13 juillet à 10h, commémoration au monument aux morts, rendez-vous à l'arène du Sud dès 13h30 pour des animations gratuites pour grands et petits, 17h30, distribution de lampions, 18h, retraite aux flambeaux. Restauration sur place, venez nombreux pour cette journée de fête.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Bodin.
Emmanuel Macron a achevé sa visite de 3 jours en Grande-Bretagne. Après le faste du dîner royal à Windsor, il a participé à un sommet entre les deux pays en présence du Premier ministre Keir Starmer. Sommet au cours duquel il a été question du délicat dossier de l'immigration illégale. Les deux pays ont signé un accord sur le principe du 1 pour 1. Chaque migrant qui tentera de traverser la Manche de façon illégale sera arrêté et renvoyé en France. Ils sont environ 800 à tenter l'aventure chaque semaine. En échange, un migrant retenu en France pourra entrer légalement au Royaume-Uni s'il remplit certains critères. Emmanuel Macron a parlé d'un accord qui produira un effet dissuasif.
Nous avons trouvé aujourd'hui un accord politique de principe pour tester justement ce projet pilote qui exercera un effet très dissuasif sur le modèle des passeurs et sur les traversées.
Cet accord s'accompagnera d'un renforcement des contrôles à la frontière et le Royaume-Uni devrait augmenter son financement de ce dispositif. Si Emmanuel Macron vante l'effet dissuasif de cet accord sur les migrants et les passeurs, les élus municipaux du Nord restent dubitatifs. Leurs communes font face depuis des années à un flux de migrants. Pour le maire adjoint de Gravelines en charge de la sécurité, Alain Bonneface, cet accord ne sert à rien.
Et qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire ce migrant? Il va partir chez lui, il va faire 7000 km à l'envers. Maintenant, il va retenter de son départ pour l'Angleterre et puis il va se planquer en Angleterre. Et il trouvera bien quelqu'un pour l'employer là-bas. Jusqu'à temps qu'il se fait prendre et puis il reviendra, puis il recommencera. Ça sert à rien du tout. Je sais pas où ils ont été chercher ça. Je sais pas comment le président de la République a pu avoir cette idée lumineuse. Mais il doit pas connaître le problème, quoi. Il vient pas nous voir. Jamais vu Macron ici. On a vu les ministres de l'Intérieur, on a vu quelques-uns, mais le président de la République n'est jamais venu à la rencontre des populations.
Et cet accord signé avec le Royaume-Uni comporte aussi une partie sur l'Ukraine, avec l'annonce de la création à Paris d'un quartier général pour la coalition des pays volontaires, dont la mission sera d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine, même si pour l'instant les pays européens sont écartés des négociations entre Kiev, Moscou et Washington. Les autorités iraniennes confirment l'arrestation de Lennart Monterlo. Ce jeune homme de 18 ans de nationalité franco-allemande effectuait un long périple en vélo jusqu'au Japon. Il n'avait plus donné signe de vie depuis son arrivée en Iran le 16 juin dernier. Le ministre iranien des Affaires étrangères a confirmé qu'il avait été arrêté après avoir commis un délit sur lequel il n'a d'ailleurs pas donné plus de précision. Le Premier ministre François Bayrou a réagi sur LCI.
Tout le monde sait que le devoir des pays est de ne pas persécuter des innocents qui sont parfois inconscients des risques qu'ils courent, que nous avons un devoir de protection réciproque et que ce devoir de protection réciproque, surtout dans les temps si difficiles de tension et de guerre où nous sommes, il faut le respecter pour que les pays puissent ensemble tracer un jour un chemin vers la paix.
Et la France rappelle à ses ressortissants qu'il est vivement déconseillé de se rendre en Iran pour l'instant. L'Iran, qui constitue l'un des foyers de tension dans le monde, mais les conflits se multiplient et les questions de défense sont une préoccupation redevenue majeure. Emmanuel Macron devrait détailler son plan pour la défense française à la veille du 14 juillet. Comme les autres pays de l'OTAN, la France s'est engagée à porter ses dépenses en matière de défense à 5% du PIB d'ici 2035. Arthur Delaborde pour Europe 1.
D'après l'Élysée, le discours que le président prononcera ce dimanche à 19h à l'hôtel de Brienne sera très important et comportera des annonces majeures. Emmanuel Macron veut franchir une nouvelle étape dans l'effort de défense qu'il revendique d'avoir déjà porté à un niveau inédit, 413 milliards d'euros. Entre 2024 et 2030. Le budget des armées devrait donc être encore renforcé. Objectif, faire face à une menace qualifiée de systémique avec un conflit majeur en Europe et une désinhibition de la violence partout dans le monde. Menace que détaillera le chef d'état-major des armées, le général Burkhard, dans une conférence de presse demain en fin de matinée. Un exercice rare voulu par le président lui-même avant sa prise de parole. On est à un moment de bascule, prévient l'entourage du chef de l'État, qui entend tirer les conclusions de cette nouvelle donne stratégique, un monde plus dangereux, plus instable et où, je cite, la liberté n'a sans doute jamais été aussi menacée depuis 1945.
Toujours en métropole du Nouveau pour les prochaines élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, les trois plus grandes villes de métropole. Les électeurs de ces communes devront désormais mettre deux enveloppes dans l'urne, l'une pour désigner les conseillers d'arrondissement et l'autre pour les conseillers de la mairie centrale. Le texte a été définitivement adopté par le Sénat. Et puis les suites des intoxications à la viande dans l'Aisne. Plusieurs personnes avaient été gravement malades et une fillette est même décédée. Les parents de deux jeunes qui avaient été hospitalisés pendant plusieurs jours attaquent l'État car ils estiment qu'il a une part de responsabilité en ne menant pas de contrôle suffisant dans les boucheries. Leur avocat est Maître Emmanuel Ludot.
L'État a des comptes à rendre et l'État a des devoirs en matière de surveillance de ce type d'activité, à savoir la boucherie, c'est-à-dire des viandes qui doivent être surveillées constamment, faire l'objet de contrôles inopinés. L'État doit aujourd'hui montrer aux parents les rapports d'inspection, s'assurer qu'effectivement on a tout vérifié dans ces boucheries.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. À 11h55, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive et notamment un nouveau leader au classement général du Tour de France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Cafard, termite, rat, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
Votre enfant a grandi, il devient trop grand pour la crèche ou pour la nounou, mais il n'a pas encore l'âge pour la maternelle. Éducaire a la solution. Éducaire, une prématernelle idéale pour l'épanouissement et la sécurité de votre enfant. Avec son jardin de 500 mètres carrés, un grand nombre d'activités, une équipe professionnelle et diplômée. Appelez le 25 96 01 ou sur Facebook Éducaire NC.
La foire de Bourail est de retour les 15, 16 et 17 août. Faites votre carburant dans les stations Shell et Pacifique pour tenter de gagner un Toyota Hilux spécial foire de Bourail. Urne et tirage au sort à la foire le 17 août. N'oubliez pas de remplir votre bulletin de participation.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive avec le Tour de France.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
La bataille pour le maillot jaune se poursuit. Tadej Pogacar l'a porté une journée et il ne l'a plus, Léo Fichou.
Et oui, le Slovène cède son maillot de leader à Mathieu Van Der Poel, déjà en jaune lors des 3e, 4e et 5e étapes pour une petite seconde d'avance. Remco Evenepoel est 3e au classement général à 43 secondes du leader. Le premier tricolore, c'est toujours Kevin Vauclin. Il est 4e à 1 minute de la tête. Le compte de fait continue pour le Français.
C'est du plaisir, je sais même pas si on peut appeler du plaisir, c'était un truc de malade. J'ai eu une Mondewolfer avec ma gueule dessus, vous vous rendez compte ou pas? Même des mecs dans le peloton avaient des frissons pour moi, c'était fou. J'ai essayé d'en profiter au maximum, mais ça roulait déjà bien. Mais Léa, les Kevin, Léa, les Guillaume, c'était toute la journée, tout le temps. C'est juste incroyable, c'est le pied. Ouais, je levais les bras partout, je gagnais pas l'étape, hein, mais je levais les bras quand même. J'ai essayé d'apporter de l'importance à tous ceux qui me soutenaient. Donc je leur faisais des signes et ouais, c'était fou, c'était complètement fou.
C'est Ben Hilly qui a remporté la 6e étape du Tour de France entre Bayeux et Vire-Normandie. Victoire en solitaire avec près de 3 minutes d'avance sur Quinn Simons et Michael Storer. On notera qu'il n'y a pas qu'au classement général qu'il y a eu du changement. Jonathan Milan récupère le maillot vert de meilleur sprinter. Tim Wellens récupère, lui, le maillot à poids de meilleur grimpeur. Remco Evenepoel est toujours en blanc, synonyme de meilleur jeune.
Et ce soir, la 7e étape emmènera les coureurs de Saint-Malo jusqu'à Guerlédan, 197 km, avec deux ascensions en fin d'étape du fameux Mur de Bretagne, classé en 3e catégorie. Le départ sera donné à 21h25, heure de Nouméa. On passe au tennis pour parler d'une finale inédite chez les dames à Wimbledon.
L'américaine Amanda Anisimova, tombeuse de la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka en demi-finale, disputera sa première finale en Grand Chelem. Elle défiera l'ancienne numéro 1 à l'ATP, Iga Swiatek, qui elle n'a fait qu'une seule petite bouchée de Belinda Bencic, victoire 6-2-6-0. Chez les hommes, les demi-finales à suivre ce soir, Yannick Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz.
Et puis c'est toujours la période des transferts en football en métropole, elle se poursuit et un nouveau Calédonien va changer de club.
Après Fonzi Ranchin et Jean-Jacques Katraoua, c'est Georges Gopfenepège qui vient d'être transféré. L'attaquant de 36 ans quitte Saint-Privé-Saint-Hilaire et s'engage avec Saint-Colomban-Locminé en Bretagne.
Allez, on va passer au sport sur le territoire. Et avec cet avis aux amateurs de course hippique, la Bourail Cup fait son retour ce week-end.
Oui, de retour après l'annulation de l'édition 2024 suite aux émeutes. C'est sur l'hippodrome de Téné que ça va se passer demain. Un rendez-vous incontournable en Nouvelle-Calédonie qui promet du spectacle. En plus de la Bourail Cup, il y aura 5 autres courses au galop, une course au trot et une course de stock. Fabrice Gossoin, président du comité hippique de Bourail.
La Bourail Cup, c'est une course qui a été mise en place il y a plus d'une vingtaine d'années par M. Eugène Hernu. Aujourd'hui, c'est à 1400 mètres. Un événement phare chaque année à Bourail. Cette année, ça c'est une des deux courses la plus dotée sur 1,5 million. Ça reste quand même une classique, c'est une. Il n'y en aura que deux cette année. Celle-là et puis la Casino Coupe Clark. Alors, ça fait que ça réunit vraiment les très bons chevaux, les nés élevés en Calédonie. Cette année, nous en avons 7 inscrits dans la Legacy Girl qui avait gagné en 2023, qui remet son titre en jeu. Elle est inscrite encore. Et voilà, ça sera vraiment les meilleurs chevaux de 1400 mètres qui seront là.
Rendez-vous donc demain dès 10h30 sur l'hippodrome de Téné pour la Bourail Cup. De nombreuses animations seront également proposées toute la journée. L'entrée est à 500 francs et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.
Et puis on a appris ce matin qu'Éric Michalak, le directeur du service des sports de l'UNC, a été élu président du groupe de réflexion et de développement du sport universitaire dans les Outre-mer.
Il était en métropole pendant quelques jours au mois de juin dernier. Éric Michalak a pu exposer à l'ensemble des universités métropolitaines et Outre-mer les dispositifs mis en place à l'UNC pour les étudiants sportifs sportifs de haut niveau et notamment le PESU, pôle d'excellence du sport universitaire. Des présentations qui ont poussé ses pairs à l'élire à la tête du groupe de réflexion et de développement du sport universitaire dans les Outre-mer pour les deux prochaines années. Sa priorité, accompagner les athlètes étudiants ultramarins dans leur réussite sportive et scolaire. Écoutez Eric Michalak.
C'est poser un cadre pour vraiment les accompagner, je pense que c'est le terme. C'est vraiment les accompagner dans la réussite de leur double projet. Je vais essayer de créer une dynamique justement pour qu'on les prenne mieux en compte ou qu'on les rende visibles aussi surtout, hein, parce que ce sont des figures inspirantes pour la jeunesse des îles, mais aussi plus généralement pour la jeunesse française, parce que ils sont méritants. Là, on parle bien d'athlètes qui sont donc sur liste nationale. Hein. Si on prend l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, on a Loane Ville, qui est championne de France en titre donc du 400 mètres haies. On a Félicé, qui est le champion de France en titre du lancer de javelot, qui est aussi à l'IUT de Nouvelle-Calédonie. Donc ces jeunes-là sont méritants, il faut les mettre en valeur et c'est la première fois qu'on va dire qu'on a cette démarche-là vis-à-vis d'eux.
Eric Michalak a également été nommé comme nouveau chargé de mission pour les Outre-mer au sein du groupement des directeurs du service universitaire des activités physiques et sportives.
Merci Léo, il est midi et une minute, la fin de ce journal.